Donc nous faisons partie des bons élèves, puisque, ben, vous le savez tous, nous n'empruntons pas et nous remboursons tous les ans environ 5 millions d'euros de dette. Donc la dette est classée 1A auprès de la charte Gisler. La ville s'est désendettée de 16,7 millions depuis 2015. Vous avez le profil d'extinction de la dette complète. Alors, d'une part, la dette PPP, et ensuite la dette propre. Donc, c'est une obligation, ce que je vous disais tout à l'heure, dans l'Europe. Donc, nous voyons que notre dette PPP s'arrête en 2034 et notre dette propre en 2043. Les investissements. Gros sujet sur les investissements, puisqu'il fallait construire un plan pluriannuel d'investissement, avec les données que nous avions sur les années 2017 et début 2018, plus l'ensemble des constructions que nous avait communiquées Panama et Pamarne. Donc vous avez une première partie de tableau du PPI, qui est en fait tout ce qui est récurrent. L'investissement récurrent sur nos bâtiments, sur la ville, ce qu'on va faire tous les ans, c'est de l'entretien, c'est, je dirais, quasiment, c'est du classique. Tous les ans, nous allons engager quasiment le même montant pour l'entretien de notre patrimoine. Ensuite, vous avez une deuxième partie, qui sont les grands projets, donc nos constructions, tout ce que nous allons faire ou prévoyons de faire dans les années à venir. Donc ces grands projets sont détaillés, vous avez le square Vitrina, la réfection des dalles de voirie, l'informatisation des écoles, le GS 11, 12, 13, la piste d'athlétisme, l'extension du réseau de vidéosurveillance, la salle Flessel et les travaux d'accessibilité qui est une obligation depuis plusieurs années. Donc, à côté de ça, vous avez les recettes associées à ces grands projets et le FCTVA. Le FCTVA, je vous le rappelle, c'est la TVA, la rétrocession de TVA sur les investissements que nous touchons 2 ans plus tard et sur seulement une partie de la TVA qui est d'environ 80%. Donc, vous avez le détail des engagements annuels pour l'ensemble des projets. Donc, 80%, il faut le dire quand même, 80% du montant hors-taxe du GS 11 et GS 13 vont être financés par des subventions de l'EPAMARN. D'où les recettes que vous voyez inscrites en 2019, 2020, 2021, qui sont tout simplement les subventions données par EPAMARN et signées avec EPAMARN. Ensuite, vous avez le détail des différents projets que nous allons faire cette année, hein, la création de 14 jardins familiaux, l'éclairage de la place de la Marne, l'aménagement de la salle Keul, du K2, sanitaire place de Verdun. Donc vous avez l'ensemble des projets annuels. Voilà. Pas petits projets, parce qu'il n'y a rien de petit, mais ce sont des choses récurrentes, des petites choses que nous, en termes de budget, que nous allons faire dans la ville en termes d'investissement. Donc la mise en place de clôtures, du mobilier urbain, la signalétique, etc., etc., l'informatique. Appareils électroménagers pour nos crèches, etc., matériel nécessaire pour les différents projets, donc buciplage, forme de l'emploi, patinoire. Voilà. Donc il s'agit, ensuite on a les grands projets, donc enveloppe pluriannuelle, le GS10 n'apparaît pas dans les grands projets parce qu'il fait l'objet d'une APCP. Donc, les montants de dépenses inscrites au PPI tiennent compte à la fois des possibilités budgétaires et d'un recours très limité à l'emprunt, puisque l'emprunt aujourd'hui, ça sera un impôt pour demain. Je pense que vous l'avez tous compris dans ce budget. Plus nous allons emprunter, plus nous allons rembourser, donc plus nous aurons besoin de recettes pour pouvoir rembourser notre dette. Donc nous allons essayer de construire tout ça en fonds propres. La PCP du GS10, donc ce n'est qu'une redite de ce que nous avons passé en conseil municipal au mois d'avril, hein. Vous avez l'intitulé de l'AP, les montants qui avaient été au départ validés puis modifiés en conseil municipal en 2017. Donc les montants, évidemment, n'ont pas changé. Le CP antérieur, en termes de recettes, vous l'avez, ce sont les subventions versées par l'EPAMARN concernant notre GS10. Et le CP prévisionnel pour 2018 et 2019 également en termes de recettes. Donc je vous le disais tout à l'heure, le financement des investissements, donc nous allons nous appuyer 1 sur les subventions, 2 sur le FCTVA et 3 sur notre capacité à dégager une épargne brute pour nous permettre de financer ces investissements. Par ailleurs, le virement justement de l'épargne brute à la section d'investissement sera de 27,3 millions en 2018. Les subventions d'investissement de l'État et des autres collectivités. Donc, ce que nous attendons en 2018, budgétairement parlant, les amendes de police environ 40 000 euros, ce qui est une année, on va dire, normale. Les subventions du département pour la piste d'athlétisme de 148 000 euros. La subvention des Pamarles pour le GSI selon la PCP de 2,9 millions. Le solde de subvention concernant les tableaux numériques de 18 000 euros, ce qui concerne le projet d'informatisation des écoles, et la subvention de la DRAC pour la restauration de la Pietra de 3 750 euros. Voilà. Les capacités financières de la ville, pour terminer, les grands équilibres financiers et principalement l'épargne de gestion, ce qui nous permet d'investir. Donc ça correspond, l'épargne de gestion correspond à l'excédent entre nos recettes et nos dépenses de fonctionnement, ce qui nous permet de dégager une économie qui va réaliser nos investissements sur l'année. Par contre, c'est hors dette, puisque la dette doit être payée sur les fonds propres. Donc là, nous mesurons clairement l'épargne de gestion. Vous avez ce qu'il y avait au CA 2015, 14 millions, CA 2016, 8 millions, BP 2017, 5 millions, et au prévisionnel 2018, 6 millions. L'intérêt de la dette, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, en BP, nous, sur 2018, nous sommes à 1 067 000 à peu près, et l'épargne brute sera de 5,2 millions sur 2018, soit un taux d'épargne brute à 11,18%, ce qui est plutôt une bonne épargne qui est considérée bonne à partir de 8%. Donc je vous ai expliqué ce qu'était l'épargne brute. L'épargne nette correspond à l'épargne de gestion après déduction de l'annuité de la dette. Tout simplement pourquoi ? Parce que une dette doit être obligatoirement remboursée par l'épargne de la ville, donc sur son fonctionnement au départ. C'est-à-dire que si une ville n'est pas capable de rembourser ses dettes par ses fonds propres, on ne peut pas dire qu'elle ferme boutique, mais il y a un gros souci. D'où l'intérêt de ne pas emprunter pour rien ou de manière excessive. Évidemment, tous nos budgets sont construits dans cet esprit-là pour rembourser notre dette, mais également pour pouvoir investir derrière. Donc notre épargne nette gérée au plus juste, avec l'ensemble du fonctionnement que nous allons faire, l'épargne nette, nous finissons au BP 2018 à 32 000 euros en prévisionnel. Voilà, ma présentation est terminée. Si vous voulez, nous pouvons échanger sur ce rapport.
Alors, merci Ludovic. J'imagine qu'il y a des questions sur la présentation de ce ROB, donc la parole est ouverte. Madame Chérifi. Le micro.
Excusez-moi. Au niveau de l'évolution des budgets, des dépenses budgétaires, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation de 164 315 euros entre 2017 et 2018 ?
Sur quelle ligne ?
Sur quel poste ?
Sur la masse salariale. Ouais, donc, budget 2017, 15 748 384. Budget 2018, 15 912 699. Et je rajoute un deuxième point.
Alors, je vais déjà répondre à celle-là.
Allez-y.
Parce qu'en fait, j'ai déjà répondu dans le rapport.
Pardon.
Puisqu'on a une augmentation, non seulement de la CSG, qui augmente le 0,12. D'ailleurs, vous avez le détail, hein, complet. Vous avez l'augmentation du GVT, 70 000 euros. La CSG, 50 000 euros. L'évolution du CNRACL, où les bases passent de 10,29 à 10,56. Le RIFSEP, 39 000 euros. Et la progression des carrières individuelles, 25 000 euros. Voilà l'augmentation où elle est.
Ensuite, au niveau de la durée effective du travail, on a une régression entre 2016 et 2015. On a une régression entre 2017 et 2016. Et on a une augmentation entre 2018 et 2017.
Alors,
sur la durée effective du travail, avec une quantité de 5.
Je ne comprends pas la question, en fait.
La page 9.
Oui. La durée effective du travail est 37h30.
Oui. Alors, je voudrais comprendre, m'expliquer, parce que je suis là pour apprendre et comprendre. Hein, ça va de fait. Donc, je voulais...
Oui.
On avait une régression de moins 6 entre 2015 et 2016, une régression de 11 entre 2016 et 2017, et une augmentation de 5 entre...
Ça y est, j'ai compris.
Voilà.
En fait, vous parlez de la durée effective du travail, c'est pas la durée effective du travail. La durée effective du travail, elle est fixe, elle ne bouge pas. C'est 37h30.
Oui.
Vous parlez d'effectifs purs.
Oui.
D'accord.
C'est des effectifs affectés sur les quantités de...
Eh bien, c'est très simple. En 2016 et 2017, 331 à 320, vous avez tout simplement soit des gens qui sont partis,
d'accord,
soit des gens qui sont passés sur un autre temps de travail. C'est-à-dire que quand vous regardez 80%, c'était à 12 en 2016, là vous passez à 15 en 2017. Donc vous avez peut-être des gens qui sont passés de 100% à 80%, qui sont passés à temps partiel tout simplement.
D'accord.
La quantité de temps, c'est effectivement, je dirais, des catégories, et ensuite on affecte les personnels qui sont affectés à ce temps-là. Donc c'est pour ça qu'il y a les évolutions entre l'un et l'autre. C'est souvent des vases communicants. Quand on se réfère aux chiffres en bas, c'est là où vous avez la véritable évolution globale, effectivement, en fonction des effectifs.
Donc finalement, en effectif pur, on a fait moins 9 en 2017, et on va faire plus 5 pour récupérer les effectifs qui nous manquent en 2018.
On a fait moins 11.
Moins 11, oui.
Ouais, moins 11 et moins 6 en... Et comment on va faire le jour où la taxe d'habitation sera complètement supprimée, puisque c'est l'objectif de la nouvelle refonte fiscale locale
Tout à fait. Alors ce qu'on sait aujourd'hui... très simplement...
Parce que c'est pas que 80%, hein. L'objectif c'est 100%.
100%, c'est ce que j'ai dit.
Qui sera,
absolument, elle sera supprimée complètement.
Parce que comme c'est une taxe qui est injuste... Elle sera injuste pour l'intégralité de la population, elle ne peut pas être juste pour 20% et injuste pour 80%.
On est d'accord, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les 30% de réduction vont être pour 80% aujourd'hui des contribuables.
La première année, c'est 30%
sur 80% des contribuables.
60%, la troisième année, c'est 90% jusqu'à la fin. Normalement, il n'y a plus personne.
Ça sera 100%
sur la dernière année. Sur la dernière année.
Absolument.
C'est ce que j'ai expliqué.
Oui, c'est ce qu'on vient de dire.
Oui, c'est ce que j'ai expliqué. Maintenant, comment ça va se passer? C'est très simple. Pour l'instant, on est sûr d'une chose. C'est que cette année, on va être compensé à l'euro près.
Oui.
Voilà ce qui va être fait. Sur les bases que nous avions sur 2017. Nous n'avons pas touché aux bases. Enfin, nous n'avons pas touché aux taux ni aux abattements. Donc, on va être indemnisé, on va dire, à l'euro près. Les années suivantes, pour l'instant, rien n'est arrêté. Donc pour le moment, on ne peut pas préjuger. On suppose qu'on sera également rétribué à l'euro près, ce qu'on espère, voire même avec les évolutions des logements qu'on pourra avoir, théoriquement, les bases vont aussi monter. Donc on devrait avoir un impôt supplémentaire versé par l'État. Maintenant, on n'en a aucune garantie puisque les textes ne sont pas intégralement sortis à ce niveau-là. Nous n'avons qu'une certitude, c'est cette année, l'abattement sera remboursé à l'euro près aux collectivités.
Et c'est d'autant plus problématique quand on se projette sur les années suivantes, c'est que, on le sait depuis les lois de décentralisation de 82, qu'à chaque fois qu'il y a eu transfert de compétences ou autre, l'attribution de compensation, ou en tout cas le remboursement à l'euro près, n'a jamais été à 100%. Donc, la première année, aujourd'hui, est garantie. Là, les suivantes ne le sont pas. Dans un contexte, comme vient de le dire M. Montpellier, de progression de notre population, qui sera quand même calculée l'année N plus 1. Donc, si on a un décalage constant entre le nombre d'habitants qui vont consommer du service et le revenu de la taxe d'habitation, je dirais, compensé par l'État, on aura constamment ce décalage-là. Et c'est la crainte que l'on a aujourd'hui. C'est une raison pour laquelle, je pense, sur les villes nouvelles, les maires vont saisir Bercy pour avoir des garanties de mécanismes de compensation sur des augmentations de population assez régulières dans les années qui viennent. Pour l'instant, ce n'est pas garanti.
Ceci étant qu'il y a un contrôle et qu'il y ait une maîtrise au niveau national de cette taxe, c'est quelque chose de logique et de juste, parce qu'aujourd'hui, s'il y a du si on a une taxe d'habitation qui est aussi mirobolante, c'est du fait qu'on a eu à la tête de cette ville des maires qui ont fait un peu ce qu'ils ont pu ou ce qu'ils ont voulu par rapport à le taux communal qu'on impose, parce que c'est bien à la houlette du maire que le taux est imposé sur la taxe d'habitation.
C'est ça.
Donc je trouve ça complètement logique et complètement bon que cette taxe d'habitation soit éliminée et que dans les mairies, on va faire attention à ce qu'on va dépenser, on va faire attention à ce qu'on va...
Mais c'est ce que l'on fait
j'ai
déjà...
J'ai besoin d'un effectif, je le garde, j'ai pas besoin d'un effectif, on va regarder si on
c'est
peut
ce
pas...
Que, c'est ce que l'on fait déjà...
En accord avec les personnes,
absolument.
Pour pouvoir les mettre là où il y a un besoin réel et puis la personne pourra de toute façon... S'il a une activité, parce que tourner en rond, ça ne sert à rien, s'il a une activité sur le poste qu'on lui proposera, elle sera plus épanouie.
Mais quand on a dit ces banalités, effectivement, derrière, on est aussi des gestionnaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de ne pas avoir de prévision de compensation de recettes de fonctionnement via l'impôt, ça pose quand même, je dirais, un problème sur nos investissements. Ça pose aussi le problème, comme je le disais tout à l'heure, de la déconnexion du citoyen entre sa fiscalité et le fonctionnement de sa commune.
Aujourd'hui,
attendez, laissez-moi terminer. Et ça, c'est aussi une problématique. Mais nous, on a la double peine. On a la double peine, Madame Chérifi. On a la peine, effectivement, d'avoir un endettement encore extrêmement important, comme vous l'aviez dit, sur des erreurs colossales du passé. Je rappelle qu'entre 2004 et 2014, ça a été 164% d'augmentation de la fiscalité locale. Dans le même temps, la dette doublait. Donc aujourd'hui, qu'on revoit l'ensemble des mécanismes, on arrive aujourd'hui à une situation, je dirais, largement gérable. On a baissé la taxe d'habitation, comme vous le savez. On n'a pas pu baisser d'autant qu'on le souhaitait la taxe foncière, mais ce sont des choses effectivement qui viendront. Derrière, il ne faut pas que les budgets soient mis en danger avec des arrivées de population constantes. Voilà, la double peine, elle est là. On augmente de population, on a un mécanisme qui est garanti pour la première année, qui ne l'est pas pour les suivantes, en tout cas. Et derrière, on a forcément des augmentations de dépenses du fait de l'accueil de population supplémentaire. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose. Elle est purement politique. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, techniquement, sur le budget 2018, nous avons compensation à l'euro près, mais j'émets des doutes, que ce soit effectivement inscrit aussi là-dessus. Quand on a une ville stabilisée, comme des villes anciennes, comme Lagny ou autres, on sait effectivement qu'on n'a pas d'investissements récurrents. Nous, on a des investissements importants à produire, des dépenses qui vont forcément progresser au vu de la population à accueillir, et des recettes qui sont nulles. Et aujourd'hui, c'est l'État qui sera, comme je le disais en préambule, le premier contribuable de la collectivité. Donc le jour où il décide effectivement de nos investissements, on n'aura pas le choix, nous n'aurons plus d'autonomie financière. C'est ça, je dis, l'enjeu. Donc, que la taxe d'habitation soit juste ou injuste, c'est un vrai débat politique. Par contre, l'impact sur notre collectivité, il est colossal. Madame Brunel.
Oui, je voulais d'abord dire que ce rapport d'orientation budgétaire représente un travail, il est précis. Et je suppose que ce travail a été mené avec le premier vice-président, le premier maire adjoint chargé des finances et les services financiers sous l'autorité de la directrice générale des services. Vous me permettrez quand même, s'il vous plaît, de faire remarquer qu'il y a une erreur sur le tableau du PPI. Si vous prenez la ligne, l'année 2021, quand vous prenez le total des dépenses A plus B, c'est pas 1 905 000, mais c'est 15 millions. Vous avez marqué 1 905 000, c'est une erreur. Je permets de vous le signaler, car 13 millions 100 plus 1 903 000, ça fait 15 millions. Voilà, oui, non, pas, c'est une erreur, je voulais juste pour, s'il est sorti, qu'elle soit rectifiée.
Tout à fait.
Bon, sur la dette, effectivement, dont monsieur Bouty a largement parlé, je voudrais quand même rappeler qu'il y a aussi des collaborateurs de la mairie qui sont ici, qui s'en souviennent, qu'on a renégocié l'emprunt de Laura Flessel avec la Sarlbank, qu'on a quand même gagné 10 millions d'endettement jusqu'en 2034, et qu'on l'a fait aussi parce qu'à l'époque, on avait déjà redressé la situation financière de la commune. Et que je voulais aussi faire remarquer que vous héritez, et heureusement aujourd'hui, d'une situation financière qui a été redressée, d'un excédent qui en 2016 était de 25 millions. Cela dit, notre groupe ne votera pas le rapport d'orientation budgétaire pour quatre raisons. Contrairement à vos engagements, et avant de venir, je relisais les papiers de votre campagne, vous vous étiez engagé à baisser la fiscalité chaque année, c'est écrit dans chaque document. Or, vous maintenez les taux, et il est évident que le taux de la taxe d'habitation maintenu, mais comme il y a une réévaluation des bases locatives de 1,2, ça va entraîner une augmentation des impôts pour les Buxangorgiens, qui sont déjà, pour ceux qui ont la chance d'en payer, si je puis dire, écrasés par les impôts fonciers. Je les avais baissés en 2016. Il n'y a pas eu de continuité de cela, mais on est à un taux à 50, pas loin de 60%, et nous restons une des communes les plus taxées foncièrement, ce qui est vraiment une pénalité énorme pour les Buxangorgiens et qui est un frein effectivement à l'installation de nouvelles entreprises. Seconde raison pour laquelle nous ne voterons pas ce rapport d'orientation budgétaire, c'est qu'il y a une diminution des subventions aux associations, moins 51 000 euros, une diminution de la subvention à la Caisse des écoles, moins 109 000 euros, et une diminution au CCAS, moins 59 000 euros, dans une période où la situation, beaucoup de Buxangorgiens quand même souffrent. On a un peu le sentiment que c'est la double peine, on diminue les subventions aux associations, et on maintient une augmentation des impôts. Contrairement à ce que nous avions fait en 2014, 2015 et 2016, là, la masse salariale augmente de 3,86% en 2018, après avoir augmenté de 3,43% en 2017. Et je dois dire qu'en 2014, 2015 et 2016, nous avions les mêmes contraintes, GVT, etc. Et puis la quatrième raison de fond. Dans votre plan d'investissement, vous prévoyez la construction de 3 groupes scolaires supplémentaires en plus du 10e groupe scolaire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avant la fin de votre mandat, vous aura engagé la commune jusqu'en 2023 pour 31 millions d'investissements, uniquement pour les 3 groupes scolaires, sur un total de 36,9 millions d'euros d'investissement prévus. Alors bien sûr, les calculs sont justes. Donc, si vous regardez votre PPI qui est là, il n'y a qu'à additionner des sommes, donc il y a 31 millions d'investissements de prévus pour les 3 autres groupes scolaires. Vous inscrivez une subvention sur le PPI des PAMAM de 14 millions. Je voulais savoir, est-ce que vous avez un écrit? Est-ce que vous avez un engagement? Car on sait quand même ce que vaut les engagements de l'État qui a 2200 milliards de dettes, donc j'espère, et si vous avez un écrit, je pense que ça ou un engagement écrit, je pense que ça serait bien que l'ensemble des conseillers municipaux ait cet engagement. J'espère que ça ne sera pas encore une annonce qui sera démentie par les faits. Sur juste une remarque aussi sur le taux, parce qu'il faut quand même le dire. Sur le taux d'épargne nette, il se détériore, puisque l'épargne nette au chiffre d'affaires 2015 était de 8 448 423, l'épargne nette en 2016 était de 2 millions 647. En 2017, elle était de moins 1 million 193 et là, vous êtes à l'équilibre à 32 000. Donc, l'épargne nette en 2015-2016 était quand même supérieure et que votre épargne, effectivement, se fond. Donc, nous sommes, comme on l'a déjà dit, contre cette politique d'urbanisation accélérée et revendiquée. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre ce rapport d'orientation budgétaire.
Bien, alors je vais reprendre un certain nombre de points et puis M. Boutillier en complétera effectivement sur d'autres. Sur les groupes scolaires, là, franchement, effectivement, on avait déjà eu ce débat lors d'un précédent conseil municipal. J'aurais pas la cruauté de vous rappeler que dès le 1er janvier 2017, quand nous sommes arrivés aux affaires, la première réunion que nous avons eue avec Ebamarne est sur la programmation scolaire. Au vu des coûts lancés en matière d'immobilier, et bien évidemment, effectivement, ceux à venir, puisque je vous rappelle, et c'est peut-être quelque chose qui vous a échappé, nous sommes en opération d'intérêt national, et que notre volonté, c'est de maîtriser l'urbanisation et d'avoir un rythme qui corresponde pas simplement à la ville d'Ebamarne, mais également à la capacité de la ville de pouvoir intégrer les nouveaux logements. Quand nous sommes arrivés aux affaires, il manquait déjà, un groupe scolaire dans le Sycomore et un groupe scollaire dans... Mais attendez, ce sont tous les chiffres, effectivement, qui sont fournis à la fois par le service scolaire de la ville et par les services d'Ebamarne. Et là, subitement, effectivement, comme par hasard, on a les deux qui convergent. Ça veut dire que la livraison du GS10 absorbera à peine les coûts lancés dans le Sycomore. Donc, il faudra trois groupes scolaires dans les 5 ans qui viennent. La discussion que nous avons eue avec Ebamarne qui a duré 1 an, puisque Ebamarne, je vous le rappelle, participe au financement des équipements publics, souvent de manière dégressive, et on était à peu près sur une hauteur de 30 à 40% sur les groupes scolaires suivants, puisque le premier a été financé à hauteur de 80%, plafonné à 10 millions. Dans les discussions qu'on a pu voir avec Ebamarne, dans les discussions qu'on a pu avoir, je dirais, avec les services de la ville, nous avons obtenu le financement à hauteur de 80% des 3 groupes scolaires. Nous allons signer une convention tripartite, Madame Brunel. Ville, direction départementale des territoires, donc la préfecture, et Ebamarne, garantissant plusieurs choses. 1, le rythme de construction future. Je vous rappelle que la TOL, je ne sais pas si ça vous parle, donc la territorialisation de l'offre de logement, donc imposée par l'État, est à hauteur de 550 logements. Dans le SCOT, Bussy s'était engagé à 550 logements. Nous avons estimé avec Ebamarne que nous ne pouvions pas suivre une évolution annuelle de 550 logements, du fait effectivement de l'absorption nécessaire par rapport au service. Et donc, nous serons à partir de 2018 sur un rythme de construction de 450 logements par an, avec une garantie de pourcentage de financement des équipements publics, donc les groupes scolaires à hauteur de 80%. J'aurais pas non plus effectivement oublié le fait que nous avons à financer un diffuseur autoroutier, et je salue la présence de M. Riancipel, puisqu'effectivement, en tant que député à l'époque, il avait soutenu la nécessité de ce diffuseur tout en demandant à l'État de prendre en charge les financements, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque l'échangeur autoroutier sera financé à hauteur de 12 millions d'euros par la collectivité de Bussy-Saint-Georges, alors que c'est une compétence de l'État. C'est un acte, ça va passer au conseil d'administration la semaine prochaine des Pamarnes, et sur lequel nous allons demander des compensations d'État. 12 millions d'euros, c'est à peu près le prix d'un groupe scolaire, donc qui va être capté pour construire le diffuseur. L'ensemble des éléments que nous avons aujourd'hui sur la progression, la programmation scolaire, donc je vous le dis effectivement, 2 groupes scolaires sont nécessaires, et 1 qui n'était pas du tout prévu, notamment sur les logements du centre-ville. Et donc, le 3e groupe scolaire sera celui qui devra être financé et donc devra trouver les participations sur une ZAC ancienne qui correspond effectivement, pareil, à peu près à 10 millions d'euros sur le groupe scolaire qu'on va appeler numéro 11. Sur les subventions, aux associations, effectivement, je dirais, par rapport aux dossiers qui ont été présentés. Parce que c'est ça, je dirais, l'enjeu. On n'offre pas des subventions à ceux qui ne le demandent pas. Donc aujourd'hui, les dossiers qui ont été présentés à la ville représentent la somme qui a été inscrite au budget. Et donc si aujourd'hui elle baisse, elle correspond effectivement au niveau des demandes d'associations auxquelles nous avons aussi appliqué un taux par rapport à des critères qu'on avait mis en place dès 2014 et qui sont respectés aujourd'hui pour la totalité. Donc je ne reviendrai pas sur les associations telles que le foot, ça nous a déjà occupé pendant toute l'année 2016. Bref, aujourd'hui sur les subventions, on est bien effectivement sur un cadre qui a été posé par les associations elles-mêmes.